Voici la section de Bourges et Duchère de la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'avec Aline, aujourd'hui, nous allons encore, parce que ça reste profondément d'actualité, discuter de la situation sanitaire telle que les choses évoluent en France, et en particulier réfléchir autour de la contribution de la Ligue des droits de l'homme à un questionnaire de la Commission des affaires sociales du Sénat sur ces problèmes de vaccination et de passe sanitaire.
Oui, alors bon, je crois qu'aujourd'hui, on a un peu l'intention de ne pas faire une grande dissertation, hein, mais de poser un certain nombre de questions et d'essayer de comprendre certaines situations. Hein, et à travers ce passe sanitaire, hein, et l'obligation éventuelle de la vaccination, hein, derrière se cachent beaucoup de problèmes et en particulier l'attitude du gouvernement, du président par rapport à la population et par rapport à la démocratie.
Tout à fait. Je pense qu'il n'est, pas possible de nier la réalité des effets positifs de la vaccination. L'objectif, c'est pas l'éradication de la pandémie, parce que dans la mesure où une vaste partie du monde, notamment des pays sous-développés économiquement, la vaccination est extrêmement faible. Donc l'objectif de la vaccination, c'est de limiter les effets les plus graves, et notamment les décès, et peut-être d'atténuer les transmissions, bien que les vaccins n'empêchent pas de le réattraper et de le transmettre. Mais c'est cette question de la vaccination obligatoire en France, ça doit quand même se conjuguer avec la liberté de choix de chacun aux dépens de son corps.
Alors, moi, je pense qu'avant d'émettre des idées, disons, fondamentales, mais un peu complexes, hein, il est bon de partir de situation française, et de voir déjà tout simplement quelle est l'image du pass sanitaire dans la population.
Tout à fait.
Ouais. Alors, en moyenne, il y a une satisfaction de beaucoup de personnes parce que ce pass sanitaire permet d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Il est associé à une idée d'accès aux loisirs. C'est un sésame d'accès à des activités de loisirs dont nous avons été privés près de 18 mois. Alors, évidemment, il y a une sorte d'euphorie, hein, mais on peut aussi se poser la question, hein, pourquoi ce pass sanitaire a-t-il été mis en place? Le gouvernement s'en est pas caché. Hein, le pass sanitaire était un moyen de favoriser la vaccination sans recours à l'obligation vaccinale. Bon, c'est la même raison qui a aussi encouragé la gratuité des tests PCR pour ceux qui sont vaccinés. Alors, cette politique de pass sanitaire, à quoi ça aboutit? Alors, il est évident ça accélérait la vaccination, comme le souhaitait le gouvernement, mais actuellement, elle piétine. Le taux des personnes des personnes déjà vaccinées est proche de 90%, hein, ce qui représente 75% de la population totale. Mais si on compare nos résultats à celui d'un pays qui n'a pas imposé le pass sanitaire, le Portugal. Les chiffres actuellement sont atteints par le Portugal au niveau de la vaccination sont près de 100%. Cela sans obligation vaccinale. Alors pourquoi ? Peut-être que tu peux reprendre la relève.
Mais je pense qu'il faudrait rappeler que la Ligue des droits de l'homme, dès le mois de juillet, avait publié un communiqué intitulé « Le pass sanitaire, un mauvais coup ». En ce sens que le procédé était vu tout de suite, comme tu viens de le dire, comme un moyen de contrainte, un moyen détourné, d'imposer en fait la vaccination, d'obliger à aller vers la vaccination en ne la mettant pas, en ne l'affichant pas comme obligatoire, mais la rendre obligatoire sans le faire en fait. Et cet instrument de contrainte, premièrement, il est en contradiction avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui dit convaincre sans contraindre. Et deuxièmement, cette imposition du pass sanitaire, qui vérifie l'existence ou non de ce pass sanitaire, ce sont des personnes privées, ce sont des restaurateurs, ce sont des, qui d'ailleurs de moins en moins, il y a de plus en plus d'endroits où c'est de moins en moins respecté, vérifié, mais des personnes qui juridiquement, au fond sur le plan juridique, n'ont pas d'habilitation à vérifier l'état de santé de Pierre, Paul ou Jacques. C'est le pass sanitaire peut devenir, et devient d'ailleurs de fait, une violation du secret médical. Et donc, cette disposition était vue par la Ligue, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, comme quelque chose qui allait créer, pour parler familièrement, de la zizanie dans la société.
Alors, moi, j'aimerais revenir à la comparaison entre le Portugal et la France. Pourquoi les Portugais ont mieux fait que les Français au niveau des résultats? Eh bien, ils ont pratiqué une politique d'aller vers la population, encore non vaccinée. Et quelles sont ces personnes qui sont les moins vaccinées? Ce sont des personnes qui ne sont pas de plus de 80 ans, qui ne sont pas en institution. Ce sont des populations pas familiarisées au recours de l'informatique. Ce sont des populations peu touchées par les médias et la communication enfoncée. Alors, ces populations ne sont pas touchées parce que, bon, il ne suffit pas de dire à la télévision ou à la radio, hein, allez vous faire vacciner, ou, hein, bon, hein, mais il faut aller vers elles en expliquant les raisons, l'intérêt. Alors ça, il y a une prise de conscience de cette attitude par des médecins, mais ce n'est pas des médecins ou des responsables de santé. Mais ce n'est pas une attitude qui a été celle du gouvernement. Le gouvernement a dit, bah, allez vous faire vacciner, il y a le numéro, un tel numéro, débrouillez-vous. Mais on a donc laissé, pour, disons, en dehors d'une politique efficace, des personnes isolées, soit par leur âge, soit par leur lieu d'habitation, soit parce qu'ils n'avaient pas de communication possible, hein, parce qu'ils étaient, bon, vous avez compris, soit SDF, soit émigrés, donc, enfin plutôt immigrés. Donc la différence, l'explication principale, c'est une attitude beaucoup plus, disons, attentive aux besoins de la population au Portugal qu'en France.
Mais je crois qu'on peut effectivement observer cela, que cette comparaison France-Portugal montre qu'au Portugal, ça a été une politique conduite d'une façon beaucoup plus démocratique, alors qu'en France, c'est conduit d'une façon autoritaire, comme s'il y avait la conception d'une population infantile qu'il faut mener à la baguette. Enfin, c'est pas très amusant de dire ça, mais ça ressemble à ça. Je crois que l'Organisation mondiale de la santé préconise de n'imposer la vaccination qu'en tout dernier recours. Et le cas du Portugal montre qu'il est possible d'atteindre un taux de vaccination équivalent à celui de la France, voire même meilleur, sans l'obligation. Il est meilleur sans l'obligation vaccinale. Parce qu'en France, il n'y a eu, effectivement, comme tu viens de le dire, une quasi-absence, sinon une totale absence de politique d'aller vers les populations les plus isolées, les plus modestes, les plus démunies.
Une petite question pratique. Est-ce qu'il y a aussi la Ligue des droits de l'homme au Portugal? Vous avez des collègues là-bas?
Ah oui.
Ah bon, très bien.
Mais alors, c'est pas la Ligue des droits de l'homme. C'est la Ligue des droits de l'homme et ça relève de la FIDH.
Oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, dans beaucoup de pays, il y a des ligues nationales, ouais. Comme en France, la Ligue des droits de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen, qui est organisé en section locale. Et toutes les ligues, alors il y en a en Afrique, il y en a partout dans le monde, toutes ces ligues sont dans la Fédération internationale des droits de l'homme.
D'accord, ben voilà une question résolue. Et puis,
je voulais finir en disant quand Aline fait cette comparaison France-Portugal, d'un côté la contrainte, de l'autre côté l'ouverture et la démocratie, dans cette perspective de lutter contre la crise sanitaire, l'absence de politique d'aller vers les populations pour convaincre et accompagner aussi le processus, alors que chez nous c'est la coercition avec le pass sanitaire, tant que les chemins pour convaincre, les chemins d'aller vers les populations non encore vaccinées, tant que ça n'aura pas été des chemins pleinement empruntés, il n'apparaît pas du tout qu'il soit possible d'installer une obligation vaccinale.
Puisque vous êtes dans les droits de l'homme universels, les droits universels, de l'homme et du citoyen, est-ce que la démocratie s'applique à tous les peuples pareil? Le peuple portugais n'est pas comme le peuple français, et ça peut expliquer beaucoup de choses.
Là, je pense que c'est difficile d'y répondre comme ça, de façon abrupte. Bon, en faisant la comparaison entre le bilan du Portugal et le bilan de la France, ce n'est pas je ne fais pas du Portugal le modèle dans tous les domaines. Ça reflète une attitude, plus humaine, plus efficace de la lutte contre le Covid, qui démontre aussi, d'une façon plus générale et en France, que cette lutte contre le Covid, ou la Covid, reflète les inégalités, ou confirme ou aggrave les inégalités sociales et territoriales.
Et culturelles.
Elle a au fond des yeux cette lueur qui lui donne un air supérieur, cette rougeur en haut du bras, en souvenir d'un sparadrap. Elle a un truc, y a pas d'erreur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Je la vois chaque jour se promener sans masque à travers le quartier. Elle fait la bise à ses voisins et ne se lave plus les mains. Le virus ne lui fait pas peur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Alors je crie, vaccinez-moi. Mais les labos sont tous en surmenage, et il y a des problèmes d'arrivage. Alors on fait avec ce qu'on a. Du coup, j'ai reçu ma première dose hier d'AstraZeneca chez le vétérinaire. Elle, quand elle penche la tête sur le côté, elle capte les ondes 5G. Moi au bord du torticolis, c'est à peine si je capte nostalgie. D'un clin d'œil, elle commande un Uber. Pour moi c'est sûr, elle est Pfizer. Elle est capable de suivre les plus complexes conférences de Jean Castex. Elle comprend sans explication les nouvelles attestations, les couvre-feux, les changements d'heure. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, j'aurais pas mon deuxième dosage. Y'a eu comme un petit cafouillage du côté d'AstraZeneca. Les gens de mon âge, ça peut provoquer un carnage. Alors j'hésite, je sais pas pourquoi. Moi qui me voyais déjà dans le monde d'après. En fait, c'était thrombose pour être vrai. Elle maîtrise la téléportation. Elle paye ses courses avec le front. Le seul truc pas vraiment pratique, c'est qu'elle fait sonner les portiques. Elle comprend tout Schopenhauer. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Et moi, je tourne comme un lion en cage. Je suis à deux doigts du craquage. Injectez-moi n'importe quoi. Comme je ne peux pas attendre davantage, j'ai pris rendez-vous au garage. Et là j'ai été reçu comme un roi. Depuis je me promets l'air supérieur. Avec mon vaccin à l'huile de moteur.
Je reviendrai sur bon pourquoi les Français. Enfin bon, on a un résultat un petit peu, enfin bon, mais pas complètement bon, de l'application de du pass sanitaire. C'est qu'il y a une incohérence aussi dans l'application. Il paraît complètement ahurissant que quand on prend le train, si vous prenez un TGV, il faut le pass. Si vous prenez un TER, pour la même ligne en plus, hein, il ne faut pas le pass. Or, pourquoi le pass dans le TGV, pourquoi le pass n'est pas exigé dans le TER?
Ça, c'est la vieille recette qui consiste à rendre obligatoire simplement ce qu'on peut contrôler, en fait.
Mais on peut aussi contrôler le contrôleur, avec les remarques qu'expliquait Michel par rapport au bon. Hein, le contrôleur n'est pas quelqu'un qui, a priori, devrait contrôler le pass, dans la mesure où, bon, il y a tellement d'informations médical, mais on peut tout imaginer aussi, hein, au niveau du pass. Hein. Ce contrôleur, hein, il pourrait faire aussi bien, ça j'en étais témoin, hein, dans plusieurs situations, hein, il aurait pu le faire aussi bien pour ceux qui prenaient un TER que ceux qui prenaient un TGV.
Moi, je vais revenir sur quelque chose que nous avions débattu lors d'une émission antérieure, quand on s'était posé la question « Où va la police ?», pour faire très 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 vite, et aussi peut-être de façon fort critiquable, chacun appréciera ou pas, depuis ce qu'on a appelé la loi M. Khomri sur le travail, et puis tout ce qui s'en est suivi, le mouvement des Gilets jaunes en est rentré en France de la part des pouvoirs, parce que là je fais référence, la loi M. Khomri c'était l'époque Hollande, et le pouvoir de Macron, dans une conception policière du traitement des problèmes sociaux. Et je voudrais quand même dire, sans quitter la question de la santé, que, et il faut le saluer, au Sénat, le sénateur Bernard Jomier, qu'importe son appartenance politique, a insisté sur le fait de la mise à l'écart des institutions en matière de santé publique, le Haut Conseil de la Santé publique, la Haute Autorité de Santé, mise à l'écart. Ça, c'est quelque chose qui est, au fond, la démonstration de l'autoritarisme gouvernemental qu'a mis en place ce conseil de défense qui est en fait une instrumentalisation politique de ces questions.
Dans cet esprit, hein, bon, que tu viens d'analyser, hein, pour comprendre aussi, hein, le comportement et les limites des décisions prises par le gouvernement à l'initiative du président, bien, c'est que la communication est peu claire, parfois incohérente, hein, et c'est particulièrement démontré actuellement avec l'obligation vaccinale imposée pour les personnels des établissements médicaux et médico-sociaux. Préalablement, il n'y a pas eu de dialogue avec ce personnel. Quand ça a été présenté comme une obligation, hein, on a constaté que là où la discussion a été faite, hein, non pas au niveau de la décision, mais de l'application, hein, dans les services hospitaliers, à l'initiative du responsable du service, l'échange ayant permis d'éclaircir, de donner des réponses, bien, dans ces services, on constate que 100% du personnel a accepté la vaccination. Bon, je crois comprendre, hein, que ça n'a pas dû être le cas de tous les services de l'hôpital de Bourges, hein, puisque on a appris, hein, que c'est combien de personnes ? J'ai oublié. Hein.
Il y a 13 personnes.
Oui, c'est ça. Oui. Il y a 37 personnes suspendues,
voilà,
en tout,
et 13 personnes qui ont porté plainte. Voilà.
Oui, donc.
Mais je crois, si ce que l'on peut rappeler à partir de ce que tu viens de dire concernant, au fond, les soignants, les aides-soignants, c'est que le caractère abrupt de la pression pour aboutir, au fond, à une vaccination qui, sans le dire, est obligatoire, on peut comprendre que ça a conforté chez toutes ces personnes le sentiment d'être des boucs émissaires, et d'être méprisés, en dépit, il faut quand même le rappeler, de leur dévouement pendant la crise. Le gouvernement, à travers les chaînes d'infos en continu, ne se gênait pas pour faire applaudir et applaudir les soignants au moment du premier confinement, de la première vague, de la deuxième vague, etc. Et aujourd'hui, ce sont des gens que l'on méprise, ce sont des gens que l'on contraint. Ça s'appelle pas la démocratie. Et au-delà de l'incohérence que tu soulignais, Aline, je crois que l'incohérence de cette politique qui se fonde sur une urgence sanitaire pour imposer toujours plus d'obligations, tout ça s'est fait dans un contexte où le gouvernement continue ses politiques budgétaires qui conduisent à des suppressions de lits, des fermetures d'hôpitaux.
Non, mais... Alors, on peut, disons, faire le point sur l'analyse des résultats français en remarquant que, de façon générale, il est admis qu'en matière de santé publique, l'efficacité commande une transparence sur les processus, un consentement éclairé,
oui,
et une participation de la population aux choix effectués. Actuellement, enfin maintenant, on peut se poser une autre question. Que révèle l'attitude du gouvernement dans la mise en place du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, rendu obligatoire pour certaines catégories de travailleurs, comme on l'a déjà expliqué. Alors, je reprends ce qui a été exprimé déjà préalablement sur certains points. Donc, qu'est-ce que ça relève ? Une dérive autoritaire et un déni démocratique. Dérive favorisée par le Parlement qui ne cesse de voter le transfert de pouvoir à l'exécutif par la prolongation, par exemple, de l'état d'urgence, sans exercer de réel contrôle a posteriori. Dérive concrétisée par la mise à l'écart des institutions en matière de santé publique. Comme tu le rappelais, Haut Conseil de la Santé publique, haute autorité de santé. Il convient de sortir la parole de santé publique de l'instrumentalisation politique qui en est faite afin de répondre aux demandes démocratiques de transparence sur les enjeux vaccinaux.
On rejoint ce que nous avions dit lors de la dernière émission. Dans un pays où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. C'est la déclaration de 1789 qui le dit. Et quand on en arrive à une situation où plus de 90% des décisions législatives sont prises par le pouvoir exécutif, il n'y a plus de pouvoir législatif. La majorité actuelle a une très très grave responsabilité dans cette situation. Elle finit par tuer la séparation des pouvoirs. Montesquieu se retourne dans sa tombe.
Mais le pauvre homme...
Oui, ben oui.
Il en a vu bien d'autres.
Mais le paradoxe, c'est qu'un pays peut ne pas avoir de constitution et pratiquer la séparation des pouvoirs. L'exemple, c'est nos voisins anglais.
Mm-hmm.
Ça, la proposition.
Ils ont une charte.
C'est pas une constitution, mais ça revient au même.
C'est une charte.
Tradition.
Il oui. Y a quand même un écrit.
Oui, il y a la charte.
Oui, il y a une charte, oui, oui. Ancienne. Oui.
Oui, mais bon, les principes sont déjà exprimés. Alors, on peut maintenant se poser une nouvelle question. Quelles sont les conséquences de la politique actuelle par rapport au pass sanitaire ou à l'obligation vaccinale de certaines catégories? Bien, c'est clair, le pass sanitaire aboutit à négliger les gestes barrières. On en oublie l'essentiel. Pas de masque, ou un masque qui est mis de façon à ce qu'il n'ait aucun effet, c'est-à-dire ni devant la bouche, ni devant le nez. Et personne ne dit rien. Donc pas de masque, pas de distanciation. Pourtant, ils sont toujours fondamentaux et nécessaires pour contrôler la pandémie.
Pas de capteur de CO2 dans les établissements,
et dans toutes
les salles d'activité, dans les écoles, oui. Etc. Et lorsqu'on travaille en groupe, rien n'est fait pour, organiser l'aération. la captation du CO2, etc. Non, c'est toujours... Alors, la contrainte, on la retrouve aussi avec, c'est le cas à partir d'aujourd'hui, le paiement pour l'accès aux tests. C'est encore une pression pour forcer à la vaccination. Preuve supplémentaire de dérive autoritaire.
Alors, bon, on en est aux conséquences. Une menace sur le droit du travail est prévue, puisque la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire a prévu une suspension du contrat du droit du travail, hein, pour les personnes, hein, qui travaillent donc dans les hôpitaux, les EHPAD, hein, si elles n'ont pas été vaccinées.
Donc la LDH dit qu'il y a là une grave régression du droit du travail, et donc cette dénonciation de ces entraves, finalement, ou de cette, comment dire, modification incohérente, en fait, ça explique, ça justifie les recours, justement, qui sont faits par
les
personnels.
Mais les recours, c'est des personnels administratifs, et ça fait il y a un peu une confusion entre le droit du travail normal et le droit du travail administratif. Et certains patrons privés, en fait, profitent de l'occasion un petit peu, hein, pour régler des comptes éventuellement. Et ça, c'est un danger, ça, oui.
Cela existe. Oui. Cela existe. Non, mais les recours qui sont faits par les personnels suspendus,
oui, c'est ça, oui.
Pour non-vaccination, ce sont des recours qui vont nécessiter une étude approfondie du droit du travail, et de vérifier si la suspension est légale ou pas.
En fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent s'adresser qu'au tribunal administratif. Donc, à la fin des fins, on se retrouve au Conseil d'État, qui lui-même avait déjà conseillé le gouvernement avant. Donc, je ne sais pas de quel... Ça se mord un peu la queue, je trouve.
Ben, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et ça permet de rappeler quand même qu'il y a eu un certain nombre de modifications législatives qui sont intervenues sous ce quinquennat, et qui ont contribué à mettre de côté le juge judiciaire, ou à marginaliser de plus en plus le juge judiciaire au bénéfice des juges administratifs et des préfets, enfin bon, voilà. Et ça, c'est grave aussi.
Ce qu'il faudrait, c'est que la question arrive devant un juge, un vrai, pas un juge administratif, jusqu'à éventuellement la juridiction des droits de l'homme européenne, ou alors le Conseil constitutionnel. Mais là, pour l'instant, on ne peut employer que la voie du tribunal administratif, qui, à mon avis, ne mènera à rien. Et ça, c'est dommage.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire la démarche.
On fait avec ce qu'on a,
voilà.
Même si c'est limité, ça c'est sûr. Alors, on reprend les conséquences de cette politique. Le pass, ça a été déjà évoqué, mais on rappelle, donne accès à des informations médicales mais autres. Et de toute manière, c'est une sérieuse, très grave menace sur nos libertés. Il peut être utilisé, enfin, il est utilisé pour restreindre nos libertés. D'autant en plus que ce pass, qui le contrôle, des personnes qui ne relèvent pas des autorités publiques et qui peuvent, alors que ce soit les restaurateurs, les personnes qui vous donnent qui vous vend le billet, pour aller au cinéma, ce sont des personnes qui peuvent, si elles ont des idées un peu complexes, accéder à des données à caractère sensible, pouvant déboucher déjà tout de suite sur des comportements de discrimination.
Si ça se trouve, le restaurateur qui lit le pass sanitaire, il pourrait en déduire ce qu'il va pouvoir vous proposer comme menu, en fonction de vos pathologies diverses.
Oui. Ou il peut aussi apprendre des informations sur vos attitudes, vos choix personnels dans le domaine idéologique et autres.
Et puis, sans oublier que, bon, derrière, il y a le restaurateur, mais à terme...
On n'en veut pas au restaurateur,
on n'en veut évidemment pas au restaurateur, ni aux commerçants, etc., etc. Mais, comment dire, toutes ces données personnelles, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines, de millions de citoyens, c'est relié à toute une série de fichiers, y compris les fichiers de police. Le big data peut conduire, par exemple, un jour, à ce qu'une société d'assurance, les grandes sociétés d'assurance, disent « Ah oui, mais un tel, ben, on le sait, un tel il a un cancer, donc on va pas pouvoir assurer sa maison, on va pas pouvoir assurer son logement, on va pas pouvoir assurer sa voiture. » Et de fil en aiguille, on va arriver à une espèce de société de surveillance généralisée. Et puis, ce que disait Aline à l'instant, cette politique sanitaire qui est conçue uniquement sur des formes de contraintes. Il faut que le citoyen montre à titre individuel son justificatif. C'est quelque chose qui montre qu'il n'y a pas, en fait, véritablement un effort collectif tendu pour lutter contre la présence de ce virus qui est loin d'être parti, puisque une grande partie du monde n'est pas vaccinée, ça va tourner, ça va varier, ça va venir, ça va revenir, ça va repartir.
Et plus ça revient, plus le virus est grave. C'est ça qui est aussi préoccupant.
Et surtout à chaque fois différent.
Et plus grave au niveau de la résistance. Alors, on peut peut-être arriver à la conclusion quand même et faire simplement trois rappels. Bon, le premier est notre préoccupation des conséquences de l'utilisation du pass sanitaire. Le deuxième est formulé d'abord sous forme de question, l'obligation vaccinale est-elle la solution pour lutter contre le Covid ? Bon, certes, et c'est évident, la vaccination est la seule manière efficace de lutter contre la Covid. Mais cette vaccination doit être favorisée, soutenue par une stratégie de conviction, une stratégie de la confiance réciproque. On l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est fondamental. Et puis, troisième élément de conclusion, comme l'expliquait Michel, le Covid, il faut l'envisager, la Covid, de la traiter en France, mais il y a tout le reste du monde. Pour cela, pour améliorer la vaccination, pour permettre la vaccination réelle dans l'ensemble de la population mondiale, il faudrait aussi il faudrait voter la levée des brevets sur les vaccins. Il est inadmissible de maintenir le monopole de production et de commercialisation de quelques grands groupes pharmaceutiques. Groupes qui reçoivent de l'argent des États et qui, par leur comportement, hypothèquent la vaccination de masse rapide ouverte à tous sur toute la planète. Vaccination qui, évidemment, permettrait de faire reculer la pandémie.
Ben, je vais vous faire une confidence tout à fait personnelle. Dimanche dernier, je me suis rendu pour visiter le site Street Art City, qui se trouve tout près de chez nous, dans l'Allier.
C'est bien ça.
Et qui fonctionne d'ailleurs avec des peintres qui sont invités sur, pas dossier, mais sur observation de leurs œuvres. L'un d'eux, il y a 2 ans ou 3 ans, a fait tout un pignon d'un bâtiment. C'est sur l'extérieur, il y a aussi des salles à l'intérieur, sur la justice. Alors la justice figurée par une très jolie jeune femme qui tient le flambeau de la justice et la balance. Et l'artiste a mis dans sa balance une balance très déséquilibrée, sur un plateau des têtes de morts, comme on peut, bon voilà... et de l'autre, alors, beaucoup plus lourd, hein, qui penche, des liasses de billets de banque. Et bien ça, ça s'appelle Big Pharma, dans le sujet qu'on traite aujourd'hui.
Mais c'est joli, cette allégorie de la justice avec la lumière et la balance. Bon, la balance, c'est connu, mais la lumière, très souvent, il y a le glaive aussi, hein,
oui,
qui est brandi.
Oui, oui. Le peintre ne l'a pas oublié. Hein, la jeune femme porte aussi le glaive.
Elle porte, oui, le glaive, mais elle ne le brandit pas.
Mais le problème, c'est que la justice, le glaive, parfois... si on sort du, si on sort du sujet, le glaive est très, très dur pour le môme de la cité qui a volé l'orange, comme voilà, chantait, oui, je ne sais plus qui à l'instant.
Béco, oui.
Et puis, de l'autre côté, Alexandre Benalla, qui s'en tire très bien. Bon, je passe. Mais tout ce que vient de, tout ce que vient de dire Aline explique que quelque part en France, cette politique est finalement insensée, puisqu'elle continue à se faire, comme on le disait tout à l'heure, sur la fermeture de lits, la réduction de personnel soignant. Et au fond, la mise à l'écart de la démarche démocratique et même la mise à l'écart des institutions qui auraient permis d'avoir un avis plus éclairé sur le combat contre une, oui, contre une pandémie.
Je crois que, bon, on a apporté un certain nombre d'informations, d'éclairages. Hein, vous avez maintenant de la liberté de choisir, puisqu'on défend la liberté.
Oui. Je voulais dire que... cette émission a été essentiellement consacrée aux prises de position de la Ligue et notamment de ses réponses à un questionnaire qui avait été lancé par la Commission des affaires sociales du Sénat. La Ligue, qui n'a pas l'habitude d'avoir la langue dans sa poche, a dit tout ce qu'elle pensait de la politique sanitaire conduite en France. Et des dérives institutionnelles, on pourrait presque même dire constitutionnelles, parler de la séparation des pouvoirs qui existe de moins en moins. Et sans doute, lors d'une prochaine émission, nous viendrons présenter le travail et les réflexions de la Ligue qui vont aboutir à la mise en place de fiches que nous proposons de diffuser dans la population dans les mois qui viennent, sur les grands principes constitutionnels qui, s'ils étaient réellement appliqués, permettraient que ça aille peut-être mieux dans le pays. Et pour dire aussi que nous faisons partie des personnes qui pensent qu'il sera nécessaire de faire dans ce pays de très grandes modifications institutionnelles et peut-être sans doute une nouvelle constitution.